Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est un de ces personnages obscurs et fascinants dont Balzac n'a pu inventer le type, mais qui aurait figuré en bonne place dans la comédie humaine. L'homme d'une quarantaine d'années est riche, très riche, mystérieux, voire un peu louche, entreprenant, voire mégalo, avec cette légère suffisance que donne l'argent et le pouvoir qui va avec. Le cheveu gominé, la bouche lipue, avec des rondeurs qui évoquent un vif intérêt pour la gastronomie. Cédric Naudon, c'est comme ça qu'il s'appelle, à la différence des viandes qu'il affectionne, n'affiche pourtant pas sa traçabilité. Il dit avoir fait fortune aux États-Unis, mais on ne sait trop comment. Il confie au Monde Magazine avoir étudié à Berkeley et travaillé dans la finance chez Bank of America. Mais après vérification de l'hebdomadaire, pas plus de Cédric Naudon à la prestigieuse université de San Francisco qu'à la fameuse banque. Il aurait monté plusieurs affaires au Canada et en Europe, dont une société de consulting financier avec des activités d'intermédiaire sportif et une autre dans l'immobilier dont l'actionnaire majoritaire, toujours selon le magazine, est une coquille vide domiciliée à l'île Maurice. Il est en procès avec l'ancien guignol Bruno Gaccio à qui il a taxé quelques millions qu'il ne lui a pas rendus. Il s'évapore et réapparaît au gré de sa fortune et du vent qui tourne plus ou moins bien. Le plus souvent, il refuse de répondre aux journalistes et se réjouit de ce mystère qui l'entoure, qu'il appelle son mythe. Fin 2011, il décide d'investir dans la gastronomie et crée une petite société dont l'activité se résume, je cite, à « éditeur de lieux à vivre et à manger ». Il ouvre un restaurant dans l'île Saint-Louis et se lance enfin dans le projet pharaonique de la jeune rue qui nous intéresse aujourd'hui et dont le nom viendrait d'un vers d'Apollinaire. Voilà la jeune rue et tu n'es encore qu'un petit enfant. Il cultive le flou le plus artistique sur le montage financier de ce projet, son état d'avancement et ses perspectives précises. Mais par contre, il aime beaucoup parler de son idée, se projeter dans l'avenir et avoir toujours un coup d'avance. Cédric Naudon.
Je me suis lancé une idée folle. Une idée folle de créer dans Paris un quartier de 3 500 m² qui serait un lien direct entre les producteurs et les consommateurs. Un lien qui partirait de la terre aux consommateurs. Ce quartier est au carrefour de 3 rues. La rue Volta, la rue Notre-Dame de Nazareth et la rue Verbois. On aura 36 commerces, 36 commerces de bouche. 36 commerces tous dédiés à un certain type d'agriculture. Ces 36 commerces vont générer 250 emplois directs, 1500 emplois indirects. Et ces 36 commerces vont être desservis par 450 producteurs. En fait, je vous parle d'un projet qui s'appelle La Jeune Rue.
Cédric Naudon appelle La Jeune Rue son rêve humaniste devenu réalité. Or, il se trouve que dans cette jeune rue, en plein milieu de la rue du Verbois, habite une des productrices des pieds sur terre et pas des moindres. Je lui ai donc demandé de me raconter ce que c'est que cette histoire, à quoi ressemble sa rue, si elle est déjà jeune ou en train de rajeunir, ce qu'elle en pense, ainsi que ses voisins. Ma rue, par Ilana Navarro, c'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Tomates, quart de bœuf. Tu veux des quarts de bœuf, je te les mets tous ensemble. T'as des sachets là si t'as besoin.
Il y a 10 ans, j'ai déménagé rue du Verbois.
Courge pomme d'or.
C'était une rue charmante du centre de Paris, dans le 3e arrondissement, un peu délabré, avec quelques grossistes, plusieurs magasins fermés, un ou deux petits restaurants, un luthier.
C'est une pomme d'or ?
Ouais.
Ouais, c'est ça.
L'appartement était au 4e étage sans ascenseur. La cage escalier était si étroite qu'on n'arrivait même pas à passer le moindre lit ou canapé. Finalement, on y est arrivé, à plusieurs. À 8h du soir, mes jambes ne tenaient plus. On était écroulés sur les cartons. Un ami est arrivé, il venait de croiser Woody Allen dans la rue, en bas de chez moi. Je me suis retrouvée à courir les escaliers pour assister à cet événement. J'ai poussé la porte en bois du restaurant, il était assis juste à côté de la porte. Le temps que je me rends compte si c'était réel ou pas, 3 ou 4 serveurs bien costauds, habillés tout en blanc, costume cravate à l'ancienne, se sont vite précipités vers moi pour me faire sortir du restaurant réservé aux clients de haut standing. Woody Allen s'est retourné vers sa table tranquillement, totalement habitué à ce genre d'intrusion. C'était ma première et dernière entrée chez l'Ami Louis, le restaurant soi-disant populaire le plus cher de Paris. J'ai d'ailleurs regardé le menu en sortant ce soir-là, dehors devant la porte. Entrée, asperges 78 euros. Sur le moment, je n'ai rien pu regarder d'autre. Ensuite, je suis retournée pour voir. Poulet rôti, 94 euros.
En fait, pour moi, cette rue, elle est assez emblématique d'un certain nombre de contradictions de la société française. Parce qu'on a à nos pieds l'Ami Louis, qui est un restaurant pour millionnaires américains, voire milliardaires, dans lequel on voit des gens très riches, de gros monsieur avec des cigares bedonnants, avec des dames blondes refaites de la tête aux pieds, qui vont manger des poulets à 80 euros, avec juste en face un logement social dans lequel ont la chance de loger des pauvres qui sont gagnants de la loterie administrative des HLM de Paris, et juste à côté un hôtel dans lequel il y a de l'hébergement d'urgence, des sans-papiers ou des familles en difficulté.
Avec le temps, j'ai compris que chaque personne qui habitait ou qui travaillait dans cette rue avait une histoire du même genre avec une célébrité. Même la vendeuse de perruques pour femmes africaines ou pour femmes juives orthodoxes.
Le moment particulier que j'ai vécu, c'était lorsque Kim Kardashian était venue, une très belle femme. C'était aux alentours de 19h. Et au fait, elle était garée juste là. Elle s'est garée sur mon trottoir. Donc, elle sort, je la vois, je dis oh, bonjour, voilà, comme si c'était normal. Et au fait, après, quand elle est sortie du restaurant, elle est venue faire des photos avec nous, etc. Et le garde du corps m'a demandé de rester calme. Elle est très ouverte, elle est très gentille, mais par contre, il ne faudra pas hurler ou faire des crises et tout, sinon là, lui, il ne sait pas. Donc, elle est venue. Et j'étais avec une cliente à moi. On était au calme. Et je lui dis, elle arrive et tout, donc on reste calme. J'ai ma cliente qui a pété les plombs. Elle est devenue hystérique. Donc à partir de là, elle a crié, elle a hurlé, elle a tout fait. Je n'ai pas compris. Par contre, elle est restée très professionnelle, très calme. Elle est restée Kim Kardashian, tout simplement. Et on a passé un superbe moment et après, elle est partie.
Les serveurs de mon cher voisin l'Ami Louis sont cités dans les guides comme des franchouillards charmants et rudes. Ce serait même pour ça que les touristes viendraient les voir. Je tente ma chance auprès du gérant.
Non, non, mais on fait pas d'interview, c'est fini, j'en fais pas. C'est terminé. Mais c'est pas la peine d'assister, c'est non. Vous me connaissez mal, non? Non, je dis non, c'est non, c'est terminé, je ne fais aucune interview pour personne.
Dommage. Bonne journée.
Bonne journée, madame.
Au revoir.
Au revoir.
Après cette déconvenue, je monte chez mon voisin Lionel, avec qui on aime bien discuter des histoires de notre rue.
Ah, voilà le patron de l'Ami Louis qui avance vers l'entrée de son restaurant, bedaine en avant. J'ai fait un jour quelque chose de pas très bien. Il y avait Dominique de Villepin qui était venu dîner avec toute sa famille. Et c'était un dîner d'anniversaire. Et c'était juste après qu'il ait quitté le gouvernement. Et le soir-là, il y avait beaucoup de bruit. Il faisait beaucoup de bruit. Et en hommage au CPE et à toutes les saloperies qu'il a pu faire, je me suis permis d'appeler la police. C'est la seule fois de ma vie que j'ai jamais appelé le commissariat pour leur dire d'intervenir à l'Ami Louis. Voilà, et c'est comme c'était l'ancien ministre de l'Intérieur, je me suis dit que j'allais me permettre une fois dans ma vie de faire une petite bêtise comme ça. C'était politique. Un petit attentat par procuration. Voilà, donc après, voilà, ça s'est calmé. Ah, en parlant de la police, le policier à vélo à contresens.
Et
s'arrête devant l'ami Louis. Alors pour une fois, c'est la personne elle-même qui descend. Alors un vieux monsieur avec un beau costume, suivi d'un autre monsieur. Le plus souvent, ce sont des messieurs relativement âgés avec de plus jeunes dames. Les taxis s'en va et le balai des taxis commence ce soir à l'ami Louis. Alors il y a John Kerry qui bloque la rue quand il vient, Bill Clinton aussi. Puis je descendais de mon immeuble pour aller à la supérette du coin, acheter un petit truc pour mon repas. Et une grosse berline s'arrête. Et de là descend un grand homme qui se déploie. C'était Jacques Chirac avec l'air un peu fatigué, pour ne pas dire déconfit. Et je lui ai demandé comment ça allait, en fait, assez naturellement. Et puis, il m'a un petit peu envoyé balader. Et j'ai réalisé quelques mètres plus loin que c'était le soir des régionales et que la droite se prenait une branlée mémorable. Voilà. J'ai voulu être sympa et je pense qu'il a pris ça pour de l'ironie. Ah! Le balai des limousines, on se croirait aux Oscars. Là, ça, c'est une grosse Citroën avec un chauffeur professionnel, puisqu'il a mis ses warnings pour indiquer qu'il allait s'arrêter un petit peu. La porte s'ouvre. Il y a encore un monsieur à cheveux gris qui met un beau chapeau avec son beau manteau de pluie. C'est un homme élégant. Et le shuttle, conduit par un Indien, file. Et ralentit la voiture qui est derrière. Alors il y a souvent, j'ai un jour empêché une bagarre hein, parce que un taxi ne décollait pas et les gens derrière klaxonnaient au point que il était tard et je pense que les gens avaient un peu bu, qu'un couple est sorti et il a commencé à se battre avec le chauffeur de taxi. Et donc j'ai rempli une grosse casserole. Je leur ai versé de l'eau sur la tête pour les empêcher de se battre. Après, ils ont arrêté de se bagarrer. Les serveurs de l'ami Louis ont aidé le chauffeur de taxi à s'essuyer. Alors après, les gens de l'ami Louis m'ont regardé, m'ont insulté comme si j'étais un terroriste. Parce que tout le monde a cru que j'étais genre l'agresseur dans l'affaire. Alors qu'en fait, j'étais l'élément pacificateur.
En dehors de l'ami Louis, ma rue est restée populaire pendant longtemps. D'ailleurs, juste en face de ma fenêtre, il y a un hôtel délabré, au mois, où vivent des gens qui n'ont pas de logement ou de papier. Derrière chaque fenêtre, il y a une famille qui habite dans une seule pièce. La nourriture et le linge sont accrochés à la fenêtre. Souvent, nos regards se croisent. Au début, derrière une de ces fenêtres, il y avait une Chinoise qui fredonnait des chants très très tristes à 4 heures du matin. Une fois, on partait en vacances. Il était très tôt. On chargeait nos affaires dans la voiture. Elle chantait en chinois, le regard dirigé vaguement vers nous, mais étrangement perdu. Sa voix m'a poursuivi après. À notre tour, elle n'y était plus. Maintenant, il y a une famille slave en haut, une jeune ivoirienne et sa fille. Je la croise parfois sur le trottoir. Pourquoi vous êtes venue vous installer dans le quartier?
Non, moi, je suis juste à l'hôtel. C'est une situation très difficile. C'est une chambre, c'est une petite chambre avec l'enfant. C'est pas confortable. Dans la petite chambre, il y a une seule douche, 5 étages. Donc, imagine, il faut fallu rendre pour avoir la douche. C'est pas une vie. Pour cuisiner, je cuisine chez mon oncle le samedi. Et j'envoie ici. Je mets dans le frigo et je chauffe au micro-ondes, c'est tout. Je ne fréquente pas trop les restaurants. Ici, c'est des restaurants de boss, ici.
Des boss?
Des gens qui ont de l'argent. Mais je ne sais pas, il y a quoi ici, c'est du foie gras. Moi, j'aime que plus la nourriture africaine.
France Culture, les pieds sur terre. Il y a environ 5 ou 6 ans, des choses étranges ont commencé à se passer. Des boutiques qui vendent des produits très bizarres ont ouvert, puis fermé, puis réouvert le mois suivant en changeant totalement d'enseigne. Par exemple, en bas de l'immeuble à côté de chez moi, une fois c'était un magasin de chaussures très élégante et très chère, puis un magasin de cigarettes électroniques, puis une salle à manger allouée à la soirée. Je me demandais souvent qui seraient les clients de cette minuscule boutique. Et j'avais raison, car un mois plus tard, il n'y avait toujours pas de passage, ni dans la boutique à chaussures, ni dans la salle à manger allouée. Et il fermait jusqu'à la prochaine idée de génie. Depuis des années, plusieurs boutiques de ma rue changent de main tout le temps. Un jour, la presse a commencé à parler d'un projet de la jeune rue, qui serait lancé par un investisseur, un certain monsieur Naudon, qui aurait acheté près de 36 locaux dans mon quartier. Il dit qu'il souhaite révolutionner la rue. Le directeur du projet de la jeune rue le représente.
Allons chez Ibadji. Ibadji qui est notre restaurant coréen qui ouvre ce soir. C'est un restaurant qui a été designé par Paola Navone, une designer italienne. Chaque projet de restaurant ou de boutique est confié à un designer en particulier parce que M. Naudon, au-delà d'être épicurien, a une passion pour le design. Voilà, donc il a voulu mêler ses deux passions à travers le projet. Nous aurons ici, à l'angle, à terme, une épicerie. Ici, un bar japonais. Ici, juste en descendant la rue, nous aurons un fromager. Un peu plus bas, une galerie wallpaper. Nous aurons un glacier ici, une pâtisserie designée par Nendo, dans laquelle nous proposerons les pâtisseries de Yann Brice, le chef exécutif pâtissier, qui est meilleur ouvrier de France. Donc ici, nous aurons la boulangerie. Nous allons proposer des pains qui sont faits à partir de nos propres farines, de blé, qui sont composés de blé populaire, d'anciennes variétés de blé, qui contiennent par exemple pas de cellulose, ce qui peut être toxique à grosse consommation. Ici, nous aurons un bar à tapas, ici, dans ce petit lieu. Là, nous aurons un speakeasy, qui est un bar à cocktail sur le mode des bars qu'il y avait dans la prohibition aux États-Unis. Donc un bar sans trop de musique, speakeasy, où on peut parler tranquillement, sans avoir à crier parce que la musique est trop forte, avec une sélection de cocktails très pointue, faite par nos mixologues. Restaurant italien, puis bistrot italien. La boucherie, qui devrait ouvrir dans quelques semaines. Nous achetons des bêtes entières et nous les travaillons de la tête à la queue. Boucherie qui est designée par Michele De Lucchi, qui est un grand designer italien également, qui avec sa sensibilité a imaginé un lieu qui corresponde à ce que nous voulons mettre en avant, c'est-à-dire de beaux produits. Voilà, parce que tous les designers qui ont rejoint le projet sont avant tout sensibles à la démarche de Cédric Naudon et la philosophie de la jeune rue. La principale volonté de ce projet-là, c'est avant tout de redynamiser et de donner l'accès aux riverains à des produits qui sont d'une extrême qualité et qui répondent à des modes d'agriculture vertueux et raisonnés, voilà, et qui sont respectueux des saisons. Pour vous donner un exemple, pendant l'été, il n'y a pas de citron, donc l'intégralité de nos cuisines, y compris nos barmen, travaillent sans citron pendant 4 mois de l'année, pour respecter la saisonnalité et ne pas importer de produits de l'étranger. Donc c'est un projet qui ne permet pas de compromis.
De ce côté, il n'y a rien.
Non. Quand même.
Je suis sceptique à l'égard de ce projet. Mais peut-être que ça sera amusant. Des centaines de touristes qui se baladent juste en bas de chez moi, qui testent les boulettes coréennes, puis la viande de race ancienne, puis des huîtres biologiques. Le Disneyland du vieux Paris aussi authentique et écologique. Heureusement, je ne suis pas la seule à me méfier du réaménagement de ma rue.
On nous parle d'un projet, rue jaune, rue, nouvelle rue ou quelque chose comme ça dans le quartier. Mais nous, les habitants du quartier, on attend voir. Parce que si c'est pour venir avec des boucheries, avec des poissonneries et tout ça, mais que ça coûte cher, ça ne sert à rien. Maintenant, pour les gens qui habitent les quartiers, il n'y a pas que moi, tout le monde attend voir ce qui se passe. On est un peu étonnés.
On a ce projet de machin chouette, la jeune rue, là, qui me paraît être le comble de l'utopie, mais enfin bon, admettons. Hein. Le renouvellement du quartier ne se fait pas dans le sens de la population du quartier, c'est-à-dire autre chose que du snobisme, si vous voulez. Une rue, ça ne vit pas avec des galeries et des restaurants trop chers. L'ami Louis, c'est hors de prix. Par qui va l'ami Louis, à part Clinton et Chirac? Hein? Bon. Ben, moi, j'y vais pas.
Peut-être qu'avec ce projet de la jeune rue, le quartier ne sera même plus assez authentique pour les clients people de l'ami Louis. Peut-être que Bill Clinton ne voudra plus venir manger son poulet rôti en bas de chez moi. Ce sera trop banal, pas assez pittoresque. Et nous les riverains, est-ce qu'on va réussir à habiter dans ces rues transformées en cartes postales?
C'est très désagréable de vivre dans un endroit qui vit sa vie, qui se compose, se recompose, qui évolue, et que subitement, un type débarque comme Lucky Luke, appelle la presse entière, rachète des restaurants, casse l'écosystème local pour prétendre y apporter le vrai, le beau, le design, alors que la rue vivait très bien sans lui et qu'on est dans un quartier dans lequel il y a beaucoup de gens qui sont des esthètes, qui sont des gens très créatifs et on n'avait pas besoin d'un Jésus du design pour embellir le quartier. Le quartier changeait à son rythme, s'inventait une identité tout seul. Et on n'a pas besoin d'un messie hégémonique pour transformer notre lieu de vie, tout simplement. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me dérange. Je ne sais pas si je suis un peu téméraire ou bête, mais enfin, en tout cas, le responsable de la jeune rue, Cédric Nodon, donnait une interview à Canal+. Et je marchais dans la rue, j'ai hésité, et puis j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé lui demander si ça ne le dérangeait pas de jouer au Monopoly dans ma rue. Et alors, c'était très étrange parce que subitement je me suis retrouvé face à Jean-François Copé, c'est-à-dire qu'il utilisait le même ton agressif, condescendant, bourgeois pour en gros me traiter de con parce que je connaissais pas bien son projet, sauf que j'avais lu très en détail son dossier de presse et je savais très bien quel était son projet et je me suis fait démonter la tête face à la France entière et là j'ai été coupé au montage.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. About you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Maru par Ilana Navarro. Une émission réalisée par Emmanuel Geoffroy. Merci à Lionel, à Olivier, à Arnaud Duhem du projet de la Jeune Rue. Merci aux habitants et aux commerçants de la rue du Verbois. On attend toujours vos réactions et vos commentaires avec impatience sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Twitter au compte des Pieds sur Terre. Voilà, on vous lira et on vous retweetera et on vous commentera et on vous likera autant de fois que vous le souhaitez. L'attachée de production, c'est Sandrine Chaperon, remplacée en ce moment par une ex-stagiaire devenue remplaçante, nommée Valérie Borst. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture.